Antoine de Carverso, bonjour. Nous sommes le dimanche 10 septembre et aujourd'hui, sous un soleil radieux, c'est vous que j'aimerais soumettre à la question, vous interroger sur votre parcours d'éditeur et sur la manière dont vous vivez aujourd'hui votre métier. Alors pour commencer, j'aimerais savoir pourquoi et comment vous êtes devenu éditeur.
Eh bien, je voudrais commencer par faire une précision. Je ne suis pas éditeur, je suis un tout petit éditeur. Autrefois, quand je m'occupais de Baleine, j'étais un petit éditeur. Et je me rends compte que maintenant, avec les contrebandiers, je suis un tout petit éditeur. C'est-à-dire que j'aimerais bien défendre cette position. C'est-à-dire que je suis vraiment quelqu'un qui fait quelque chose de complètement marginal. Alors, comme on le verra, je fais quelque chose de marginal dans le fond, par le fond, parce que je publie, mais je fais aussi quelque chose de marginal dans la manière dont je m'inscris dans le circuit industriel, dans le circuit général. Alors, pourquoi je suis devenu éditeur? Et bien, comme ça, ça m'a pris... j'ai toujours aimé les livres. J'ai toujours aimé l'objet livre, et puis j'ai toujours aimé l'idée que quand un livre sortait, c'était une nouvelle pensée qui était lancée dans le monde. Et ça, ça m'a toujours plu. Alors c'est pas du tout un désir de puissance, un désir de égoïste. C'est un désir de mettre à jour des choses qu'en fait des gens. Et en fait, essayer de leur donner un moyen pour donner une existence à ce qu'eux ont fait. Parce qu'en fait, l'éditeur, on n'est rien s'il n'y a pas des auteurs.
Je crois que ce qui est important chez vous, c'est la notion de virginité. C'est-à-dire que, ça vous me l'avez dit souvent quand même, c'est pourquoi est-ce que vous publiez des livres? Parce que oui, certes, c'est une pensée neuve, mais surtout, c'est à la fois la pensée et l'objet qui la renferme, c'est-à-dire le livre... Avant que vous mettiez en œuvre les moyens pour les rendre concrets, existants, c'était des choses qui n'existaient pas, qui n'étaient pas au jour. Donc passer en fait ce passage-là du néant à l'existence, c'est ça qui vous fascine, je crois.
Oui, tout à fait, c'est ça qui me fascine et c'est ça, je trouve, qui a de la valeur. En fait, c'est vrai que tout le reste après, voilà, c'est mon sale goût. Mais je trouve qu'après, tout le reste n'est que du marché, que de l'organisation d'exploitation et des choses comme ça. Alors c'est vrai que c'est un peu frustrant pour les auteurs, puisque eux, ce qui les intéresse, c'est d'être reconnus après. Donc souvent, le fait qu'on les ait publiés, qu'on les ait choisis, qu'on leur ait dit que leur texte me plaisait, et que je les édite, eh bien, de temps en temps, je me dis qu'ils peuvent ressentir une certaine amertume parce qu'on vend très peu, parce qu'on n'est pas dans les circuits, parce qu'on n'a pas de presse, enfin, voilà. Mais si vous voulez, cette virginité, comme vous dites, c'est, pour moi, c'est essentiel. C'est découvrir un texte de quelqu'un, l'œuvre de quelqu'un, c'est vraiment... voilà, alors peut-être qu'après tout, je devrais me contenter de découvrir, de chercher, et puis de laisser aux autres le soin de l'exploiter.
Oui, en même temps, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de, justement, ce que vous faites, c'est quand même une mise au monde, vous présidez à une naissance, c'est-à-dire que vous permettez aux gens qui écrivent de passer du statut d'inconnu, de l'obscurité totale à un certain degré de lumière quand même. C'est-à-dire que sans vous, ils seraient vraiment rien du tout et vous les faites accéder à une forme d'existence, même si effectivement c'est pas la gloire, c'est pas la pluie d'éloges, c'est pas une reconnaissance fracassante, mais le simple fait de passer du néant à l'existence, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Enfin, vous vous rendez pas compte de l'importance de votre rôle dans la vie de quelqu'un qui aspire quand même à voir son écriture mise au jour.
Alors je comprends tout à fait ce que vous dites. Bon, bien que pour dans votre cas personnel, on a quand même eu des mises au jour faites par la presse. Hein, je pense à vos articles d'Abesquin sur vos livres. Mais c'est pas suffisant, si vous voulez, pour les petits éditeurs. On a vraiment peu de moyens, ou quasiment pas de moyens, pour faire connaître les gens qu'on publie. Alors ça me met souvent dans un état un petit peu bizarre, parce que je me dis, quand je choisis de publier un auteur, c'est pas un enterrement de première classe. Alors, c'est vrai ce que vous me dites, que si je ne vous avais pas publié, vous ne seriez rien, puisque vos livres ne seraient pas connus. J'ai d'autres auteurs qui me disent la même chose.
Et ce ne serait pas, tout simplement. Enfin, il n'y aurait pas de livres, je veux dire.
Oui, il n'y aurait pas de livres, il n'y aurait pas d'auteur, puisque s'il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'auteur. Mais c'est quand même... Enfin, c'est quand même rude, si vous voulez, dans la transmission, si vous voulez, une fois que le livre est fait, c'est quand même extrêmement rude de se maintenir et d'essayer de le faire connaître. Alors néanmoins, je pense, et c'est essentiellement ça que je voulais dire aujourd'hui, qu'il reste le plaisir d'avoir découvert un auteur. Et je pense le plaisir pour un auteur d'avoir trouvé un éditeur. Je pense que ça, c'est quelque chose d'irremplaçable. Je crois que c'est... Et je pense que là, je fais bien mon travail, que les gens que je choisis, les gens que j'édite, c'est des gens dont on... après, on s'occupe, on les suit, on essaie de les envoyer à droite et à gauche. En tous les cas, ce ne sont pas des gens indifférents, qui ne sont pas indifférents, comme souvent ils le sont dans les grosses maisons d'édition, à partir du moment où vous ne vendez pas, je sais pas combien, de dizaines de milliers d'exemplaires, où à ce moment-là vous commencez à intéresser les éditeurs. Et je dis ça sans amertume, je dis juste que pour le petit éditeur, l'édition en fait est une illusion, le tout petit éditeur, l'édition est une illusion complète. La seule chose, je trouve, qui reste, c'est cette virginité que tout d'un coup on montre, on dit voilà, ce texte n'existait pas, mais maintenant il existe. Et dans le fond, c'est, je vais dire quelque chose qui va faire bondir les lecteurs, mais en gros, je pense que dans notre cas, il faut que ce soit les lecteurs qui nous trouvent. On n'a pas les moyens d'aller les chercher.
Non, il n'y a pas de quoi faire bondir les lecteurs, c'est vrai. Mais alors, la question que je me posais, c'est... Vous êtes de loin pas le seul à endurer ces conditions quand même assez terribles et ingrates. Et alors, comment ça se fait qu'en fait, chacun des petits éditeurs qui est en but à ces difficultés, soumis à des conditions tellement rudes... Comment ça se fait que vous ne cherchiez pas, par exemple, à vous regrouper ou à essayer de créer une espèce de mouvement collectif pour vous opposer à cette espèce de déferlante des grands éditeurs qui monopolisent tout ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une espèce de synergie qui se crée entre les petits qui galèrent comme ça pendant des années et des années ?
Alors, les synergies ont été cherchées, établies, exploitées pendant des années. Il y a des tas de gens qui ont essayé de regrouper les petits éditeurs, ne serait-ce que pour la distribution. Et personne n'y a réussi, tout le monde s'est effondré, les faillites ont été les unes derrière les autres. Et il reste néanmoins pour le petit éditeur, le tout petit éditeur, beaucoup pour eux, enfin chez eux, beaucoup ont des niches. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits éditeurs qui en fait publient des textes, si vous voulez, où ils ont une niche, c'est-à-dire où ils ont ou un public, ou un moyen de vendre, ou voilà, je pense par exemple à une spécification, des choses comme ça, par exemple. ce que nous avons essayé de faire, par exemple, en publiant là un roman avec l'INRA, c'est une niche, c'est un moyen d'essayer de nous faire connaître un petit peu. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de publier des ouvrages dans le style de ce que vous écrivez ou ce qu'a écrit Evderien ou des gens comme ça. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est de publier de la ce qu'on appelle la littérature générale. Et pour la littérature générale, il n'y a pas de niche. Vous êtes comme les autres. Alors, comme en plus on n'a pas les moyens des autres, eh bien forcément, ces livres ont du mal à vivre. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est résister, c'est-à-dire maintenir ces livres présents sur le marché. Et puis après, on en vend deux à droite, on en vend quatre à gauche, petit à petit, essayer de se faire connaître. Mais c'est, si vous voulez, je ne pense pas qu'il y ait un moyen collectif, pour revenir à votre question, je ne pense pas qu'il y ait un moyen collectif qui soit viable pour regrouper les petits éditeurs. D'abord financièrement, parce que c'est pas en vendant deux à droite et deux à gauche qu'on arrivera à faire vivre une structure. Et deuxièmement, je pense que les tout petits éditeurs sont, et les petits éditeurs sont encore plus individualistes que les grands. Et que, si vous voulez, chacun aurait envie de tirer la couverture à soi et en fait, ils sont incapables de se regrouper.
Oui, je pense que si on choisit de s'engager dans cette aventure tellement... tellement accidenté qu'est la toute petite édition, c'est qu'on est extrêmement jaloux de sa liberté au départ. Et alors la question que je voulais, il y a plusieurs questions qui me sont venues comme ça en vous écoutant parler, c'est d'abord qu'est-ce qui motive vos choix, qu'est-ce qui fait que vous choisissez tel manuscrit pour le publier, et est-ce que vous discernez entre les différents ouvrages que vous publiez, que vous avez publiés, une espèce de dénominateur commun qui pourrait, comme ça, tracer une ligne, ce qu'on appelle une ligne éditoriale, ou plus largement un esprit qui pourrait un petit peu définir votre maison ou vous-même, enfin vos goûts, je ne sais pas.
Alors, j'ai publié énormément de premiers romans, ce qui est déjà une espèce de dénominateur commun à tout ce qu'on publie. Pourquoi des premiers romans ? Parce que souvent, dans le premier roman, il y a une sincérité absolue. C'est-à-dire que l'auteur qui a écrit son texte complètement avec ses tripes. C'est souvent un texte qu'il a mis des années à écrire, ou du moins qu'il a traîné dans sa tête pendant des années. Et je trouve ça extrêmement intéressant de porter au jour cette espèce de ferment qui a vraiment une couleur particulière. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer ça très bien, mais un premier roman, c'est vraiment une œuvre à part. C'est une œuvre qui est généralement plus sensible, probablement renferme dedans la totalité des qualités de l'auteur.
Voire, je pense, la totalité de l'œuvre qui est déjà, en fait, en germe là-dedans.
Oui, c'est pour ça que souvent, on a des soucis avec les deuxièmes romans, que tout le monde trouve moins bons, parce que, effectivement, le deuxième roman est souvent écrit immédiatement derrière, plus vite. Bon, donc ça, c'est une première chose, les premiers romans. Ensuite, il y a quelque chose... Je publie énormément de jeunes femmes. Je trouve qu'il y a une vraie différence entre l'écriture des femmes et l'écriture des hommes. Je vais en faire bondir plusieurs en disant ça, mais je pense que vraiment, il y a une... Enfin, moi, je trouve, en tous les cas, ou disons que je suis plus sensible, peut-être, à l'écriture des femmes qu'à l'écriture des hommes.
Vous pouvez préciser la différence ?
Eh bien, je trouve que souvent l'écriture des femmes est moins et plus vraie, moins bâtie, moins fabriquée, moins. Je ne sais pas très bien comment dire, mais il y a une espèce de sincérité, j'ai l'impression, qui est plus grande dans les œuvres des femmes que dans les œuvres des hommes. Bien que vous allez me trouver mille exceptions à ce que je viens de dire. Ensuite, il y a une chose que j'aime aussi, que je recherche. Je veux pas m'encombrer de gens qui veulent réussir. Je suis pas là pour ça, je sais pas faire. Donc je cherche aussi des auteurs qui ont envie de, pour qui l'écriture est une véritable envie, mais pas forcément une fin ni un but. Donc j'ai besoin aussi de gens comme ça qui soient, à qui je puisse dire d'entrée d'ailleurs, ben, si on en vend 200, ce sera vachement bien. Peu de gens, peu d'auteurs sont capables d'entendre ça. Et puis un autre point, je trouve capital, c'est que il faut que le, enfin ça, je suppose, j'espère en tous les cas que c'est pour tous les éditeurs comme ça. Il faut que le sujet me touche et que le style me touche. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le fond et la forme soient dans une harmonie ou dans une opposition, mais enfin qu'il y ait vraiment un rapport et qu'on sente que c'est, qu'on ne sente pas que c'est, enfin, je sais pas comment dire, qu'on ne sente pas que c'est une œuvre écrite, quoi. Que tout d'un coup quelqu'un a une idée et qu'il a pris un moyen pour l'exprimer. Il faut qu'il y ait, de la vie, il faut qu'il y ait enfin je sais pas, pour moi un livre en tous les cas, pour qu'il me touche, pour que je le choisisse, il faut que je sente que c'est autre chose qu'un livre, j'allais dire.
À ce propos, on pourrait peut-être évoquer la collection que vous dirigez chez Baleine, où les livres publiés relevés entièrement de votre choix à vous. Et il y avait quand même justement là une espèce d'esprit commun, enfin une espèce de quelque chose qui est relié, qui crée une parenté entre les auteurs, entre les romans. Je trouve que c'est presque tous, d'abord effectivement c'était presque que des jeunes femmes, et c'était des textes qui relevaient plus du cri que d'autres choses. C'était entièrement tripal, viscéral. C'était une violence extrême. Et on se rend compte quand on les lit, quand on se familiarise un peu avec ces auteurs-là, que les gens qui vous intéressent, c'est quand même des extrémistes, voire des terroristes. Non ?
Oui, vous avez raison. Bon, ce que je publiais dans Ultime, c'est vrai que c'était essentiellement des femmes. C'était des gens d'écrit, oui, vous avez raison. C'est aussi des gens qui s'intéressent à l'adolescence, qui s'intéressent à l'enfance, qui s'intéressent à la transformation de l'être, à ce moment incroyable qu'il y a dans l'adolescent ou dans l'enfant. Le moment où il met en œuvre quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'est plus quelqu'un de soumis et que c'est quelqu'un qui se met à voler de ses propres ailes, d'extérioriser ses sentiments. Et je trouve que c'est absolument fabuleux, cette période de l'enfance ou de l'adolescence, enfin, puisqu'elle n'est pas la même pour chacun. Et puis, elle ne se situe pas du moins au même âge pour chacun. Et par exemple, si on prend Gérald Brunner, ou si on prend par exemple Gérald Brunner, qui lui traite au contraire il traite d'un autre passage, il traite d'un moment où la vie se transforme en cauchemar, où le cauchemar se transforme en vie, ou des choses comme ça. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est les passages, voilà, et en particulier dans l'adolescence.
Et est-ce que, alors ça c'était très net là, cette cohérence dans cette collection Ultime que vous dirigiez chez Baleine. C'est moins net, je dirais, dans les Contrebandiers, vous publiez d'abord pas que des jeunes femmes et ensuite pas que des espèces de textes complètement bouillonnants, effervescents. Il y a aussi de toutes autres écritures et qui s'apparentent pas justement ni forcément à l'adolescence, ni à cette espèce de levée d'écrou, espèce de jaillissement qu'on trouvait dans les textes d'Ultime. Donc est-ce que vous pouvez expliquer vos autres choix qui peuvent paraître aux antipodes de ça justement ?
Alors, j'ai quand même continué Ultime avec, par exemple, les textes d'Evderien et les vôtres, qui sont donc des textes de jeunes femmes, qui sont des cris, qui sont des trucs bouillonnants. Mais c'est extrêmement difficile à trouver. Extrêmement difficile à trouver. Enfin, moi, je trouve, en tous les cas, dans ce qu'on reçoit comme manuscrit, je trouve pas de texte que je trouve à mon goût, quoi. J'allais dire digne d'être publié, c'est pas juste, mais en tous les cas, qui m'intéresse suffisamment pour que je les publie. Alors, c'est vrai que j'ai repris, en fait, au Contrebandier, il y a une collection de littérature et il y a une collection de polar. En gros, j'ai simplifié les choses, il n'y a plus du tout toutes les collections qu'on avait, par exemple, chez Baleine. Et dans les collections de polar, j'ai essayé de retrouver, si, quand même, ces cris, ces choses bouillonnantes, alors sous des formes absolument diverses. Parce que dans le polar, il y a un polar, j'allais dire classique français, un polar classique américain ou anglo-saxon en tous les cas. Et moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les polars, j'allais dire, qui se rapprochent justement de vos textes à vous et des textes d'Evderien, c'est-à-dire des polars qui tireraient vers la littérature blanche, entre guillemets. Et par exemple, c'est ce que j'espère trouver avec Vanessa Fuchs, qui, par exemple, dans ses romans, j'ai l'impression que le polar est une espèce de prétexte et qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est de développer les relations, enfin, les sentiments, enfin, la vie entre deux êtres. Que tous ces romans sont là-dessus. Et là, elle s'apparente tout à fait à vous, où vos romans sont des feux d'artifice de vie entre, ou de douleur entre deux êtres. Ce qui vous intéresse, c'est la relation à l'autre. Ben, je pense que chez Vanessa Fuchs, il y a ça. Et puis, il y a toute une partie qui m'intéresse, qui est essentiellement liée au style. Alors, un style que certains me diront de chiottes, mais ça m'est égal. J'assume. Il y a des gens, si vous voulez, qui ont un style beaucoup moins écrit, beaucoup moins, mais qui sert leurs propos et que moi je défendrai parce que je le trouve moi pas du tout médiocre et pas du tout moins bien que les autres. Alors je pense en particulier à Bernard Dufour qui raconte une histoire. De mafia, de cavale, tout ça, et dans un langage qui me fait penser aux romans populaires, aux choses comme ça, extrêmement simples, sans recherche d'écriture. À l'opposé, il y a quelqu'un comme Bulto qui propose un roman dans une espèce d'écriture un peu flamboyante, un peu quelque chose comme ça. Il y a des gens qui nous propose par exemple des textes, je sais pas très bien comment dire, je voulais parler de Puy là, Jean-Bernard Puy par exemple, son Ictémère, c'est soi-disant un polar, mais en fait je pense que c'est de la littérature, puis surtout quelque chose dans lequel se dévoile un petit peu et raconte des choses importantes. C'est une vraie naissance, je trouve, Ictémère. Enfin voilà, je pourrais parler de plein d'autres auteurs. Enfin, je parlerai de tous ceux que j'ai pas cités tout à l'heure parce que je ne vais pas égrener des noms d'auteurs.
Alors moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est que quand même vous avez eu un parcours extrêmement riche, éclectique. Vous avez fait les beaux-arts, vous avez fait de la photo, du cinéma. Et finalement, pourquoi est-ce que vous vous êtes fixé dans la littérature, enfin dans le livre, le métier d'éditeur, alors que par ailleurs, vous, de votre propre aveu, vous n'êtes absolument pas un lecteur, vous n'aimez pas lire. C'est quand même un paradoxe. Pourquoi est-ce que c'est ça qui a emporté votre adhésion finalement, plutôt que pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait plutôt de la photo qui au fond peut-être vous intéresse davantage, ou du cinéma, ou je sais pas.
Bon ben, il se trouve que je suis éditeur, il se trouve aussi que je fais de la photo, et là, il va nous falloir encore une demi-heure, donc je vous propose d'en parler là, tout à l'heure. Merci Benedict Time.
Merci à vous.